105 FM.
Il est 21h passé de quelques minutes et nous sommes toujours confinés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Seules les ondes radiophoniques peuvent prétendre efficacement braver le couvre-feu. Et ça tombe plutôt bien, car vous venez de rentrer dans votre salon. Vous avez allumé la lumière, observé le paysage familier, mais pas encore tout à fait nocturne qui se profile devant vos yeux, et ce, malgré vos pensées vagabondes. Pensez vos papiers. Vous avez peut-être eu le réflexe de vous diriger vers votre bar. Je parle bien sûr de cet élément de votre salon. Celui au coin de votre rue n'est pas prêt d'ouvrir ses portes. Tout ça, histoire de prendre un verre mélancolique en notre compagnie. Allez-y, vous en avez encore le droit. Trinquez à notre santé. Saluez-nous, car aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous allons vous asséner de la culture avec un C majuscule pour lutter contre la médiocrité et son M minuscule, si minuscule. Vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Aujourd'hui, la fine équipe est au complet. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé, Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, ou peut-être bonsoir.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro.
Trois accords et c'est tout.
c'est le tien. Et la lagune se maintient pour jouer cette balle. Toi tu disais, il y a des matins, j'ai le cœur à chanter. Va t'en voir, elle te parle, s'il a besoin de vous.
Vous écoutiez Un petit air, une chanson des Tête-Raide, un groupe qui a bercé la fin de mon adolescence, à l'époque où j'aimais bien les chansons à texte, les voix graves, l'accordéon, et puis les groupes festifs malgré leur thématique triste. Les paradoxes qui nous animent sont nombreux. Au sommaire de cette émission éclectique et pourtant extrêmement réfléchie, une interview de Mathieu Blard au sujet de son premier roman « Jeunesse de France » chez Manet Huilly. Un débat passionnant autour du film de Don Siegel, Tuer Charlie Varick, avec le toujours classe Walter Matthau. La chronique On n'achève pas les classiques de Luc, qui s'intéresse à un obscur duo d'écrivains suédois d'avant la grande vague de froid littéraire qui a submergé la France. Je ne vous dis que ça, et qu'il sera question de policiers qui rient. Et la chronique Sa Jazz Baby de Toops, qui découle du film de Don Siegel et s'attarde sur la Lochifrine. Tout ça est passionnant, je vous avertis. Mais revenons à Jeunesse de France de Mathieu Blard chez Manet Huilly. Le titre pourrait faire penser à un programme électoral. Il n'en est rien. Dans ce premier roman, Mathieu Blard s'attarde sur les portraits de deux jeunes, Bisbar et Billy, de deux foyers différents, dont les trajectoires similaires vont venir implacablement se heurter l'une à l'autre. Le premier est un voyou qui sort de prison après un braquage qui n'a pas été, de son point de vue, une réussite. Le second vient de plaquer son métier de journaliste. Faut croire que les sujets couverts ne le couvraient pas d'une gloire à Albert Londres. Tous les deux font de la boxe. Mais alors que le second va infiltrer un groupe d'extrême droite pour un webzine indépendant, le premier va tenter de s'intégrer et d'échapper à la coupe d'un trafiquant de drogue. Mais comment donc ces deux personnages pourraient se rencontrer? Surtout en dehors d'un ring de boxe. Eh bien, les amis, par les femmes. Mathieu Blard dresse deux portraits sensibles de Jasmine et Julia, ange et démon, qui sont à la fois le reflet et le catalyseur de deux âmes perturbées. Je n'irai pas plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire noire, implacable, féroce, que Mathieu Blard a un joli style, qu'il adapte à sa suite de chapitres en alternance. Et que l'auteur pose quelques questions qui méritent d'être posées sans imposer ses vérités. On se laisse emporter par ces deux héros romantiques qui s'ignorent. On se laisse bercer par une histoire que l'on voudrait voir se finir bien. Et d'ailleurs, on oublie à plusieurs moments que cette histoire sera triste. Voilà, c'est Jeunesse de France, c'est de Mathieu Blard et c'est chez Manet Huilly. On écoute d'ailleurs maintenant l'auteur. Mathieu Blard, bonjour. Pourquoi ce S à Jeunesse de France ?
Bonjour. L'importance de ce titre, elle est, du pluriel dans ce titre, elle est assez simple en fait. C'est que ça parle de plusieurs jeunesses, de jeunesses de catégories socio-économiques différentes qui, malgré le fait qu'elles viennent de catégories socio-économiques différentes, sont un petit peu dans la même panade, dans la même mouise même, dans la mesure où en fait, très clairement, le système capitaliste aujourd'hui, tel qu'il est proposé, tel qu'il fonctionne, n'est pertinent pour absolument personne et en particulier personne de la jeunesse et des différentes jeunesses.
Qui sont Bisbar et Billy ?
Alors Bisbar, c'est un ex-boxeur qui sort de prison après être tombé pour un braquage, qui vit en banlieue parisienne, dans une banlieue un petit peu entre guillemets difficile, même si le terme est un peu dévoyé, et qui va essayer de voilà de se réinsérer par le sport, donc par la boxe. Et Billy, c'est un jeune journaliste au chômage, enfin qui tombe au chômage dans les tout premiers chapitres. Et qui va essayer de faire du vrai journalisme, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui au vu du fonctionnement de la presse et de l'évolution des pratiques journalistiques en France aujourd'hui, quoi.
En quoi se rejoignent-ils ?
Ce qui va rapprocher Billy et Bisbar, c'est plusieurs choses. La première, c'est une certaine forme d'idéal pour les deux. C'est des personnages qui ont envie de réussir, de rendre fiers leurs proches, de réaliser des choses, de se réaliser eux-mêmes. Bisbar, à travers la boxe, si fascinant, si exceptionnel et si dur. Et Billy, à travers le journalisme, qui est quand même aussi un métier, quand il est bien pratiqué, qui est exigeant et qui nécessite de aligné entre guillemets entre les principes et les envies, les possibilités. Et ce qui va les rapprocher, c'est vraiment ça, je pense, c'est cette forme d'idéalisme et de refus un petit peu du mode de fonctionnement global dans un système, je réemploie le terme parce que c'est un peu mon obsession, mais dans un système capitaliste cynique, violent et qui fonctionne pas, en fait, très simplement.
Qu'est-ce qui les différencie ?
Alors, ce qui va les différencier fondamentalement, c'est leur milieu socio-économique, socio-culturel d'origine. Donc Billy, c'est plutôt la petite bourgeoisie qui est vouée à la réussite et qui finalement passe son temps un petit peu à échouer. Là où Bisbar, c'est Elia qui part de rien un petit peu, qui est tiraillé par ses démons et qui est tout le temps rappelé à son milieu social, en fait. Et c'est vraiment ça qui va les différencier, parce que c'est vraiment cette origine sociale, en fait, qui parfois dans notre société assigne les individus à résidence et qui fait que ça fonctionne pas, quoi. Et du coup, c'est ça qui les différencie, malgré le fait que quelque part ça les fait aussi se rejoindre, puisqu'ils sont assignés à résidence sociale, quoi.
Vous pouvez nous parler des femmes du roman ?
Les personnages féminins, ils sont très importants dans ce roman pour deux raisons, parce que il y a donc évidemment la mère de Bisbar qui est un petit peu entre guillemets, alors même si c'est un peu tarte à la crème de le dire comme ça, qui est un peu un ange, qu'il a évidemment fondamentalement déçu en plongeant une première fois dans la délinquance et qui va participer à peut-être ou peut-être pas, mais ça je vais pas le divulgâcher, à le sauver. Et il y a les personnages féminins qui sont les compagnes de Billy et Bisbar, qui en fait pour l'une, donc la compagne de Billy, partage un petit peu les mêmes démons, et des démons bien plus difficiles par ailleurs, parce que elle a subi ce que subissent aussi les femmes dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire des violences machistes, patriarcales, d'ordre criminel. Et du coup, évidemment, ça a eu des conséquences importantes sur sa psyché. C'est une évidence que de dire cela. Mais du coup, elle est devenue d'extrême droite et elle fonctionne. Enfin, elle est dans un groupuscule et dans un groupuscule d'extrême droite radicale. Et et Jasmine, qui elle est la compagne donc de Bisbar, qui va être plutôt un deuxième ange pour Bisbar, un deuxième ange gardien qui va tenter de le sortir de ses galères, de ses des tentations. Va-t-elle réussir ou pas, ça c'est la lecture éventuelle de l'ouvrage qui pourra le dire.
Quel est votre rapport avec la boxe ?
Alors pourquoi la boxe ? Moi, je suis un immense passionné de boxe depuis pas très longtemps, parce que pour le coup, je viens d'un milieu social où on n'a pas un rapport décomplexé au coup de poing dans la tronche. Je me suis mis à la boxe après des années de foot, une rupture des ligaments croisés. J'ai passé la porte d'une salle, j'ai eu beaucoup de difficultés. En plus, je suis tout petit, donc je prenais pas mal de pain dans la tronche de la part de types plus grands que moi. Je me suis accroché. J'ai même fait deux petites compétitions. Enfin, deux petits combats, une compétition, en amateur. j'ai découvert dans les salles de boxe des gens absolument fascinants par leur courage. Le courage qu'il faut pour monter sur un ring et surtout y remonter quand on en a pris plein à la tronche. Et j'ai une vraie fascination pour ces espèces de gladiateurs des temps modernes. Alors en cela, la boxe a quelque chose de noble parce que les individus qui la pratiquent sont des gens éminemment courageux, souvent très intéressants et par ailleurs très puissants physiquement parce que la boxe ça renforce le corps comme à peu près aucun autre sport. En revanche, la boxe elle est pas que noble. La boxe est aussi crasseuse, puante et laide comment ce sport mange et recrache les boxeurs à travers plein de choses, à travers le fonctionnement de l'organisation des galas, les promoteurs, et c'est un milieu, voilà, c'est aussi un peu tarte à la crème de le dire comme ça, mais c'est un milieu qui est excessivement difficile et excessivement violent et beaucoup plus violent en dehors du ring que sur le ring. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait c'est les individus qui composent la boxe. C'est pour ça que j'ai tendance à considérer que ce sport en soi il reste noble, quoi.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le sujet du groupuscule d'extrême droite? L'esprit de corps et la camaraderie?
Ah bah c'est complètement ce que vous venez de dire, hein. C'est l'esprit de corps et la camaraderie. En fait, les groupuscules d'extrême droite, alors je précise quand même en quelques mots, moi j'ai jamais évolué dans un groupuscule d'extrême droite et je suis pas un gonzo journaliste, donc je me suis infiltré dans aucun. Pour ça, moi pour cette partie-là, je me suis évidemment beaucoup documenté, et puis j'ai rencontré un journaliste spécialisé sur un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Jeunesse Identitaire, qui est de plus en plus diablement et terriblement efficace en France aujourd'hui. C'est un groupuscule évidemment qui m'angoisse beaucoup, comme beaucoup de gens. Ce que réussit, à mon avis, je suis pas sociologue, mais à mon avis, ce que réussissent ces groupes d'extrême droite radicale, c'est justement à recréer cet esprit de corps, cet esprit de camaraderie, et aussi à donner un objectif de vie à des individus qui sont un petit peu perdus, qui ont l'impression que c'est souvent d'ailleurs des individus plutôt prolos qui vont se tourner vers ce genre de groupe. Et voilà, ils donnent un objectif de vie, un ennemi commun, c'est ce qu'on appelle un peu en sociologie le eux et le nous. En se mettant contre des groupes sociaux, on recrée un groupe social, un groupe, un corps social et une forme de corps, de collectif, et ça c'est absolument central à mon avis dans les groupes politiques violents et dans les groupes d'extrême droite politique violents en particulier, quoi. C'est vraiment ça qu'ils ont, ce tour de force là qu'ils ont réussi, et ce tour de force là qui est particulièrement dangereux et particulièrement difficile à gérer en fait.
Dans votre roman, Billy est sur la corde raide. L'infiltration n'est pas sans risque.
Ah bah je le saurais si j'avais infiltré un groupuscule d'extrême droite, mais effectivement c'est ça la grosse difficulté. Billy c'est un journaliste au chômage tendance dépressif qui s'emmerde dans sa vie, qui se rend compte du gap entre ce qu'il croyait être du journalisme et ce qui existe vraiment dans ce métier, qui s'ennuie, qui sort d'une rupture amoureuse, qui va pas bien en fait, et qui se retrouve dans un groupuscule où il est valorisé pour ses qualités intellectuelles, où il y a une fille qui s'intéresse enfin à son existence un peu minable, et du coup bah évidemment qu'il est embarqué dans ce truc là et que le seul truc qui lui permet de garder la tête froide c'est de prendre des notes tous les soirs en se disant qu'il va sortir une grande enquête en mode Albert Londres ou journaliste de guerre. Il va pas devenir un gros faf en deux minutes, juste il va se rendre compte que les types qui sont des gros faf, c'est des types comme lui, c'est juste des pauvres jeunes mecs paumés, et qu'il finalement en étant pas si différent d'eux, il s'attache à eux. Et puis il y a des dans ce type de groupuscule, il y a des moments un peu fondateurs aussi qui sont souvent des moments de violence. Ces moments de violence, ils soudent le groupe, parce que dans la violence, il y a de la solidarité. La violence, elle est évidemment parfaitement illégitime et complètement dégueulasse, mais on se donne l'impression qu'elle est légitime et naturelle, et du coup on se bat ensemble en fait. Et cette impression de se battre ensemble, d'être entre soi et d'être solidaires les uns des autres, il y a pas beaucoup de milieux sociaux dans lesquels, enfin de milieux de moments sociaux pardon, dans lesquels on peut fonctionner comme ça. Et évidemment que Billy il y est sensible, et il a l'impression qu'à un moment il va passer de l'autre côté, ouais, clairement. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on passe pas de l'autre côté? Il finit par se rendre compte que, enfin non, je vais pas en divulguer trop, mais c'est toujours sur la corde raide, quoi. Puis à quel moment, quand on fait une enquête en s'intégrant dans un groupuscule comme celui-là, on les sert pas plus que on sert la sacro-sainte information. C'est aussi une vraie question, quoi. Clairement.
L'amour peut-il contrecarrer le destin ?
Alors ça, c'est une excellente question. L'amour peut-il contrecarrer le destin ? J'aimerais beaucoup y croire. C'est mon côté bisounours. Vraiment, j'ai tendance à y croire parce que effectivement, je suis un vrai bisounours pour ça. Donc oui, je pense et j'espère fort que c'est le cas. Après, c'est peut-être pas exactement ce que j'ai écrit, mais oui, je pense que c'est le cas.
Pourquoi donc avoir choisi d'écrire un roman noir ?
Alors parce que je trouve que le roman noir, c'est le meilleur format entre guillemets, enfin le meilleur genre pour mettre en lumière des thématiques sociales et éventuellement les dénoncer quand c'est réussi. Et vraiment, c'est ça qui me paraît important dans la littérature aujourd'hui, même s'il y a évidemment d'autres formes de littérature qui me passionnent. Mais c'est vraiment ça qui me paraît important et central. La littérature, elle peut avoir un effet sur le réel. Ça, j'en suis vraiment intimement convaincu. Et c'est en mettant en lumière des problèmes sociaux, des violences sociales qu'on alerte dessus aussi.
Enfin, sacro-sainte question, on écoute quoi maintenant comme musique ?
Alors, si vous le voulez bien, on écoute Soldat de plomb d'Abdal Malik, qui pour le coup, ça va faire référence un petit peu à la question précédente, est une chanson qui, pour moi, raconte vraiment une histoire qui pourrait être racontée dans un roman noir, avec toute la magie de la poésie d'Abdal Malik, qui est pour moi un des plus grands slameurs d'aujourd'hui.
Soldat de plomb, soldat de plomb. Tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure. J'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon. Soldat de plomb, soldat de plomb. J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent. J'avais déjà vu trop de sang. Soldat de plomb, soldat de plomb. J'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un. Mort par overdose, par arme à feu, par arme blanche ou par pendaison. Soldat de plomb, soldat de plomb. Bien sûr qu'un sourire nous aurait fait plaisir, juste un peu d'attention et peut-être ça aurait été autrement. Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats. Soldat de plomb, soldat de plomb. Ça ne pouvait finir qu'en drame quand nous étions dans cette cave et que tout notre escadron s'est mis à sniffer de la cam. Soldat de plomb, soldat de plomb. Des copines que j'avais connues belles s'étaient changées en loques humaines à cause de l'héroïne qu'elles s'étaient injectées dans les veines. Soldatesse fatiguée, soldat de plomb, soldat de plomb. Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire sauter la banque à coups de revolver. Bang, bang. 5, 10, 15 ans fermes et on ne parle plus que par lettres. Soldat de plomb, soldat de plomb. Sous le volant, les câbles pendent. Ils roulaient vite pour pas se faire prendre. L'explosion sonna, boum, et il se fit pendre. Soldat de plomb, soldat de plomb. Sans oublier les histoires bêtes, un contrôle d'identité, on finit une balle dans la tête. Soldat de plomb, soldat de plomb. Alors ça finit en émeute, en guerre rangée. CRS casqué contre jeunes en meute, enragé. Soldat de plomb, soldat de plomb. Alors aujourd'hui, quand j'entends des journalistes me dire que parler de paix et d'amour, ça ne sert à rien si ce n'est divertir, je pense à ces mecs et ces meufs dont l'ultime demeure est sous une croix ou tournée vers la Mecque. Ces petits mecs et ces petites meufs qu'on ne considérera jamais comme des héros ou même comme de simples victimes de guerre. Moi, je ne vous oublie pas. Et en votre mémoire éternelle, je ferai tout pour faire la paix avec moi-même. Et avec les autres aussi, pour un monde meilleur. Vive la France arc-en-ciel, unie et débarrassée de toutes ses peurs. Soldat de plomb,
soldat de plomb. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Nous écoutions Soldat de plomb d'Abdel Malik sur les conseils forcément avisés de Mathieu Blard, que l'on remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de son roman Jeunesse de France. C'est chez Manet Huili. Mais je ne sais pas si vous entendez cette petite musique annonciatrice de notre débat DBD de la quinzaine. Aujourd'hui, nous sommes au complet pour en débattre. Enfin, débattre est un grand mot. Il s'agit de Tuer Charlie Varick, c'est de Don Siegel avec Walter Matthau. Le film est sorti en 2017 chez Wildside en bouclette combo Blu-ray DVD. On écoute un petit extrait qui permet de mieux comprendre le bordel qui attend Charlie Varick. Puis, Luc nous explique un peu de quoi il est question.
Union spokesmen say a final solution to the disagreements with city officials appears to remain several days away. At this hour, a Prussian timber fire continues to smolder 6 miles south of Tres Cruces in the foothills of the Sangre de Cristos. About 1,000 acres have burned in the fire, but authorities say it is now under control. And there appears now to be a definite link between the fire and this morning's bank robbery in Tres Cruces. A car, apparently used by the bandits in their getaway, remained at the scene of the fire. Inside the car, on the front seat, authorities found a body, believed to be the remains of a woman who was driving the getaway car. Earlier today, our man at the Tres Cruces Bank spoke to Sheriff Bill Horton.
Well, this here body that we found is too badly burned for any kind of identification, except for the teeth. So we've circularized every dentist in the state with a description of the dental work. And, of course, we got every bus station and railroad depot and airport covered. All the roads and highways are blocked. These people are not going to make it out of New Mexico. Not alive. That I promise you.
Bonjour, les amis. Eh bien, Julien, c'est un voyage back to the 70s que tu nous as offert avec ce Tué Varick de Don Siegel. Le diable, il sait y faire. C'est pas compliqué et donc... c'est efficace. Le fameux Charlie Varick, plus qu'excellent Walter Matthau, fait un hold-up dans une banque à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, avec sa femme Janine, Jacqueline Scott, Armand Sullivan, Andrew Robinson, et un quatrième comparse. C'est une toute petite banque, mais il ramasse le jackpot, plus de $750,000. Charlie Varick comprend tout de suite que cette somme n'est pas normale, surtout que dans un bulletin d'information, le speaker ne parle que d'un vol de $3,000. Cet argent ne peut appartenir qu'à la mafia. Tout est dit et en 1h45, la machine Don Siegel va opérer sans une seconde de répit. Il va rapidement nous faire comprendre que Charlie Varick n'est pas un pigeon de la dernière couvée, même si Molly, John Don Baker, un tueur à gages, est mis à sa poursuite. Il ne sera dupe de rien, parce qu'il sait que contre la mafia, il n'est pas de taille. Il ne peut opposer que le calme, la réflexion, la méthode pour réussir à conserver le magot. Mais c'est au prix fort. Sa femme meurt des suites de ses blessures juste après le hold-up et il faut qu'il se protège de son comparse Armand Sullivan, qu'il s'est imprudent et subjugué par tout cet argent. Le film est réglé au millimètre. Les immenses voitures américaines roulent à fond de train et il y a de la tôle froissée, bien évidemment. Le dernier balai entre une voiture et un vieux biplan est tout à fait magistral. La caméra est légère et toujours placée au bon endroit. Le cadre est toujours construit pour qu'il fasse sens. Quand Charles Évaric, par exemple, se retrouve au lit avec Sybil Forte, Felicia Fart, la secrétaire de Maynard Boyle, John Vernon, l'homme à qui appartient le magot, il y a en arrière-plan, sur la table de chevet, le portrait de celui-ci. Et tout au-dessus de ce film, Walter Matthau domine, imperturbable, calme, déterminé. Il vole bien plus haut que le Clint Eastwood de l'inspecteur Harry, tourné 2 ans plus tôt par le même Don Siegel. Tout le film tient sur ses épaules. C'est du grand art. L'image est de grande qualité, les couleurs sont superbes. Bon, la musique de Lalo Schifrin est un peu trop Lalo Schifrinesque, mais Toups dirait que c'est quand même du Lalo Schifrin. Autre petit bémol quand même, des relents de racisme et d'antisémitisme. Quand le tueur à gages tabasse un noir, il dit « Je n'aime pas me laisser emmerder, peut-être quelquefois par des blancs, mais par des noirs, jamais. » Ou quand le même interpelle l'inspecteur Garfinkel en l'appelant Finkel et en lui disant « Vous devriez changer de nom, on n'est pas dans la plus grande légèreté. » Le film s'appelle « Tuer Charles Évaric », encore une traduction absurde d'un titre de film qui porte le nom en américain tout simplement de Charles Évaric, et il a été réalisé par Don Siegel en 1973.
Quel bon film que voici! Ça n'a l'air de rien, mais Siegel parvient à poser les événements les uns après les autres, à enchaîner les scènes. Ça donne presque l'impression d'un rythme tranquille, alors que c'est d'une efficacité assez ahurissante. On a toujours, nous, spectateurs, la compréhension du coup d'avant, tandis que lui, il pose déjà le coup d'après, en fait. Et tout en ayant une sensation, comment dire, c'est posé. C'est à l'instar, je dirais, du rythme du comédien principal qui joue donc le rôle de Varek, Walter Matthau, with a French accent, un rythme vraiment détendu. Il fait. Il n'y a pas besoin de se presser, il fait. Et nous, on comprend après, c'est pour ça qu'il a fait ça. Déjà, je trouve ça incroyable. Il y a un regard, honnêtement, un cynisme par rapport aux choses. On sait, moi, je ne sais pas trop la position réelle de Siegel, ce qu'il pense réellement de tout ce qu'il nous montre, de la société, des hommes, des femmes. C'est toujours très fin quand il évoque les choses. Il y a des clins d'œil, notamment... Alors on a à un moment donné Molly, qui est l'homme de main de la mafia, qui rentre dans un appartement, il se présente... Et on entend la voix de la femme, je vous dis pas qui c'est parce que voilà, je veux pas vous révéler quoi que ce soit. La femme qui fait bah oui, je me doute que c'est pas Clint Eastwood. Et ça a été tourné juste après une série de succès avec Clint Eastwood justement. Il y a Siegel qui joue à un moment donné au ping-pong là dans un lieu de jeu illicite. Et au passage d'ailleurs, il se fait traiter de pigeon par un des personnages. Donc voilà, il y a des clins d'œil à l'intérieur, mais c'est jamais appuyé, c'est jamais grossier. Ça détourne pas du tout le ton du film. C'est marrant, on est bien dans les années 70, hein, toutes les femmes ont les shorts très courts, elles sont toutes très belles, et elles tombent toutes sous le charme des mâles. Même si le mâle leur balance des baffes, bah oui, oh oui, encore, c'est bien connu, les femmes adorent ça, hein. Qu'on leur colle des beignes. Dans le rapport mâle-femelle, il y a un truc que j'ai trouvé drôle. Enfin, j'ai vraiment trouvé plus que... Enfin, savoureux, on va dire. Il y a un dialogue autour d'un lit rond et de la question de c'est quoi le meilleur point cardinal à essayer et de bah oui, mais ça dépend de l'objectif, etc. Alors je vous dis pas entre qui et qui parce que sinon ça vous révélerait trop de choses, mais j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Alors Molly, dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'homme de main, c'est l'autre personnage. Je dirais il y a deux personnages masculins qui m'ont vraiment marqué. Donc il y a le personnage principal qui est joué donc par Walter Matthau, qui était beaucoup plus attendu, qui était vraiment il y a le côté bonhomme parce qu'il jouait aussi énormément dans les comédies. Donc là il y a cette, à la fois il a fait des choses absolument affreuses, il est très calculateur, mais pour s'en tirer quoi. Il y a aucun des personnages, je dirais, n'est vraiment complètement antipathique. Alors peut-être sauf ce Molly, donc qui est donc l'homme de main de la mafia, qui a des faux airs à la Elvis. Donc c'est à la fois il est d'une ultra violence, mais une violence calme. Alors, je ne sais pas trop comment le dire. Toujours avec Ismar. Enfin, c'est tendu mais pas inquiétant. C'est assez curieux comme truc. D'ailleurs, c'est lui hein, qui distribue les beignes, pas que aux femmes, hein, d'ailleurs, quand même. J'ai trouvé ça très fin. Oui, voilà, c'est à l'image du film, quoi. C'est toujours assez subtil. Puis alors, dans les personnages de femmes, bah, c'est un petit peu plus complexe. Elles ont des personnages courts, hein, quand même. Hein. Il y en a une qui meurt très vite, une qui apparaît très tard. Voilà.
Bonjour, Julien. Bonjour Luc, bonsoir les amis. J'ai juste envie de vous faire part d'une seule parmi les raisons qui font que j'ai adoré ce film. Mais elle sera dans le trio de tête des raisons principales. Pour cela, je vais revenir sur le générique. Une flûte traversière joue dans le grave sur fond de soleil couchant et d'accords, ou plus précisément d'intervalles de secondes. Une petite parenthèse pour rappeler qu'une intervalle en musique, c'est la distance qu'il y a entre deux notes jouées simultanément. Alors qu'on peut parler d'accord à partir du moment où il y a trois notes, trois minimum, jouées simultanément. Un intervalle de seconde, c'est la distance entre Do et Ré, par exemple. Alors qu'une tierce, ce sera la distance entre Do et Mi, Do, Ré, Mi, 1, 2, 3. Une quarte, ça va être Do, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4. Une quinte, Do, Sol, etc. Je reviens à ma flûte mystérieuse, grave comme le soleil couchant peut l'être, quand les promesses du lendemain ne sont pas encore déchiffrables. Le titre du film apparaît soudain, en lettres de sang dans un feu de camp. En même temps, la flûte, mise en valeur par un accord des plus tendus et l'agressivité d'un jeu de cymbales, s'est mise à jouer dans les aigus, doublée à l'unisson par un piano. Le soleil arrive, avec le jour. Mais tout cela n'est pas bien franc, c'est même bien dissimulé par un filtre bien gris, bien nuageux. Pourtant, musicalement, on a une modulation harmonique qui nous fait déboucher sur un sol majeur. Le dribble peut donc commencer. Qui pourrait croire que quel que soit le danger signifié, n'est-ce pas, par les signes de la nuit précédente, ce danger pourrait se matérialiser avec la présence d'un soleil, même timide, et surtout un piano très mélodique, très chrétien, très teinté de blues, très américain. On voit d'ailleurs littéralement apparaître la bannière étoilée de cet incroyable pays. Piano en duo avec un piano électrique de type Fender Rhodes 88. Et puis arrive la section de cordes frottées. Preuve que tout va bien. On peut vraiment se détendre. Tout va bien. Le dieu soleil manifeste sa toute-puissance. Un gamin est même missionné pour nous faire rire dans ce générique. Il n'arrive pas à sceller son petit âne. Il en fait un peu trop, mais on se détend quand même. La flûte revient et elle est toute guillerette. Alors résumons-nous. Une sortie de la nuit, un propriétaire avec son bétail, le soleil lui-même, l'image de la chaleur, un jet d'eau automatique dans une propriété, une enfant qui joue, une jeune femme qui tond la pelouse, une jeune femme en culotte courte, admirée par trois jeunes hommes dans la rue selon les codes de l'époque. Des gamins qui jouent au football américain. Bref, un étalage de type carte postale du fameux American Dream. Et moi, Eh ben, moi, je me suis laissé captiver par cette imagerie bon marché et je m'aperçois soudain que la musique s'est transformée depuis le jet d'eau, en fait, presque à mon insu. On est désormais en pleine valse jazz, de type valse à deux temps sur l'échelle de Jacques Brel qui, je le rappelle, en compte 1000. Il se trouve que la valse est chère au compositeur qui signe la BO de ce film et dont on découvre le nom précisément à ce moment-là du générique. Lalo Schifrin, le fameux compositeur de la BO de Joe Mannix, de Mission Impossible, mais surtout de... Mais je m'éloigne. Valse jazz donc, mais avec des guitares électriques quand même. On est au début des années 70, Jimi Hendrix n'est pas mort pour rien. On arrive à la fin du générique avec un accord de septième mineur dans lequel la tierce, élément fondateur de ce type d'accord, est devenue une quarte. Ce qui induit une part de mystère et d'instabilité et permet le retour des inquiétudes de la nuit sauvage de ce Wild Wild West alors qu'elle venait tout juste de se dissiper. La caméra fait un gros plan sur une pancarte. On découvre trois indications. C'est écrit en espagnol et en anglais. On est au Nouveau-Mexique et derrière la pancarte, c'est une banque. Le film peut donc commencer. Et on sait dès la fin d'un générique de 3 minutes 30, avant même l'entrée dans le champ de la voiture, que le rêve américain va avoir intérêt à se tenir sur ses gardes. J'ai adoré la façon dont la musique collait à l'image, à l'action, au mouvement. Le réalisateur est génial, le scénario est génial, les comédiens jouent pour de vrai. Mais pour moi, l'atout maître s'appelle Lalo Schifrin.
Alors les amis, tout le monde semble au diapason. Pour faire suite à ta remarque, Luc, sur l'antisémitisme que tu vois poindre, je ne sais pas trop. Mais bon, le réalisateur Don Siegel est quand même juif, donc je m'interroge. Sinon, je ne vois pas quoi rajouter, hormis mon amour pour Walter Matthau, et dire que moi, c'est tout pareil que Linda, sauf que je suis bien plus mufle et plus jeune. On connaît de Walter Matthau ses duos avec Jack Lemmon. Ensemble, ils ont joué à 9 reprises, dont 3 comédies de Billy Wilder. Pourtant, c'est bien dans des rôles dramatiques que je le préfère. Un peu comme ici, quoi. Walter Matthau, c'est, rappelez-vous, le shérif Moray Johnson aux trousses de Kirk Douglas dans Seuls sont les indomptés. Peut-être ne le savez-vous pas si vous n'écoutez pas l'émission excellente sous les jupes des films que j'anime. C'est aussi le professeur Grotschel dans Point Limite de Sidney Lumet, un film similaire au Docteur Follamour, mais lui aussi exceptionnel. Et Luc, ça va t'interpeller, car Walter Matthau, c'est aussi le sergent Jack Martin dans Le Flic ricanant, adaptation d'un roman de Majoual et Pirwallo par Stuart Rosenberg. Je dis ça au regard de ta chronique qui va suivre celle-ci. Bon, là, sous la direction de Don Siegel, c'est un petit malfrat qui entre contre son gré dans la cour des grands, et c'est fait, comme vous l'avez tous dit, les amis, avec justesse, talent, et tout, et tout, et tout, et tout. Du film comme ça des années 1970, je suis comme vous, j'en redemande. Un dernier mot, Linda et Luc ?
Bon, je vais pas épiloguer ce film. Eh ben, figurez-vous, j'ai le même âge que lui. Il a pas pris une ride, comme moi.
Quel pied ce film, comme on disait justement dans les 70s. C'est un vrai grand film d'action, prenant de bout en bout et qui ne nous laisse pas une seconde de répit. Don Siegel et le boss, un point, c'est tout. Tu es Charles Varick ou l'art de faire un one-shot, alors que tant de séries policières actuelles ont besoin de s'étendre poussivement sur tellement d'épisodes et tellement de saisons. Un film indispensable.
C'est maintenant l'heure de la chronique de Luc. On n'achève pas les classiques. Un petit jingle et on part en Suède.
Bonjour à vous, la petite bande de Calibre 58. Un voyage dans le patrimoine de la littérature policière, ça vous dit ? Et un voyage en Suède en prime, hein ? Pourquoi se priver par ces temps de restrictions distancières ? Mais je vois dans vos yeux une interrogation. Dans la famille patrimoine du roman policier en Suède, il y a au moins 3 candidats. Le grand Henning Mankell, avec son inspecteur Kurt Wallander, l'efficace Stieg Larsson et son Millennium, Et puis le couple Mage, Cheval et Père Wallot, avec leur héros Martin Beck. Alors lequel des trois, vous vous demandez ? Un indice. J'ai parlé de patrimoine, c'est donc inévitablement avec le couple Cheval-Wallot que je vous invite à voyager ce soir, et vous le verrez, il s'agit bien d'un voyage. J'ai choisi le roman Le policier qui rit, titre énigmatique au possible parce qu'il n'est que le résultat d'une toute petite anecdote du roman. Le démarrage du roman, écrit en 1968, il est important de le rappeler, est inimaginable. Un bus est retrouvé en pleine nuit à Stockholm avec 9 cadavres à l'intérieur, dont le chauffeur. La police va être sur les dents parce que parmi les morts, il y a un jeune policier, Åke Stenström, adjoint de l'inspecteur Martin Beck. Et il va y avoir une enquête dont l'axe sera de reconstituer l'histoire de chacun de ses passagers, et la question de la présence de Åke Stenström dans ce bus ne sera pas des moindres. Je le rappelle, on est en 1968 et le scénario proposé est bien plus familier de si nombreux polars abracadabrantesques publiés aujourd'hui. Martin Beck et ses collègues sont choqués parce que pour eux, ce genre de meurtre n'est possible qu'aux États-Unis, déjà. Dans ce roman, il y a donc cet élément initial étonnant, et puis il y a tout le reste, tout ce qui fait le sel des romans de Mage, Cheval et Père Wallot. Tout d'abord, la présence de l'histoire. On est à moins d'un quart de siècle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et elle est encore très présente. Et puis la ville de Stockholm. C'est ce qui m'avait surpris quand je les avais lus pour la première fois. On peut lire ces romans avec une carte de Stockholm sous les yeux. Tous les endroits traversés par les personnages sont nommément cités. C'est dans ce sens que je vous ai parlé de voyage. Oh, pas un voyage touristique, parce que la Suède de Cheval et Wallot ne fait pas du tout envie. Dans Le policier qui rit, par exemple, il pleut tout le temps. La ville est sale, la misère crasse, le racisme déjà là. Et la surabondance de qualificatifs comme maussade, irascible, poissée de transpiration, tant abominable, en témoigne. Le voyage se fait aussi dans l'histoire, histoire qui percute étonnamment la période que nous vivions aujourd'hui. Au début de Le policier qui rit, une partie de la police est mobilisée pour protéger l'ambassade américaine d'une manifestation contre la guerre au Vietnam. Et de quoi croyez-vous qu'on parle déjà ? De la disproportion des violences policières, exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, et c'était il y a plus de 50 ans, un demi-siècle. Le policier qui rit fait partie de la série de ces 10 romans écrits entre 65 et 75. Elle s'arrête à la mort de Père Wallot. Avec ce couple magistral, est-on devant l'inauguration d'un genre ? Certainement pas, bien évidemment, le précurseur est sans doute le maître du genre, et Simenon, et son commissaire Maigret. Mage, Cheval et Père Wallot sont à mes yeux des continuateurs. Ils reprennent le flambeau pour le transmettre bien évidemment à Henning Mankell, et on ne peut imaginer que Stieg Larsson avec son Millennium ne se soit pas senti leur débiteur. L'étrangeté du policier qui rit est que, comme 6 des autres romans de la série, il n'est pas traduit du suédois, mais de l'anglais. Les éditions Rivage, qui ont republié la totalité des enquêtes de Martin Beck, ont repris cette traduction, mais l'ont fait réviser à partir du suédois. Je viens de citer les éditions Rivage, dont on ne saluera jamais assez le travail considérable qu'elles font au niveau de la perpétuation du patrimoine. Leurs choix sont souvent plus que pertinents. Mais ce n'est pas leur faire offense que de dire que pour moi, je préfère leur publication dans la collection Grand Détective chez 10-18, et pour une seule raison, les illustrations de couverture. Chez Rivage, les illustrations de couverture me semblent trop redondantes. Chez 10-18, ce sont des extraits de peintures de l'immense Peter Klaassen dans sa période hyper réaliste, détails de bâches de camions, de signalétiques, de bâtiments. On est dans le graphisme poussé à son absolu, et quand on regarde l'ensemble des couvertures de la collection Grand Détective, celle dédiée à Mage, Cheval et Père Wallot tranche diablement. Le roman s'appelle Le policier qui rit, il est de Mage, Cheval et Père Wallot. Il est publié aux éditions Rivage dans la collection Noire. Sa lecture n'est pas hautement recommandable, elle est indispensable.
Merci Luc pour cette chronique. l'œuvre de Maj Joal et Pierre Wallo est disponible chez Rivage. J'ajoute que leur décalogue « Histoire d'un crime » est postfacé par des auteurs suédois contemporains qui expliquent en quoi cette œuvre est imposante et a posé les jalons des littératures suédoises policières. Mais je vois l'œil de Toups qui brille et je sens qu'il va nous causer Bop et Bossa, car figurez-vous que Tu es Charles et Barrick l'a replongé dans la musique de Lalo Schifrin. Eh oui, Luc, tu avais tout juste. Alors Toups, comment ça jazz ?
Comment ça jazz, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ? Ça jazz bop, ça jazz bossa nova, ça jazz rock, ça jazz classique et ça jazz BO, puisque je me dois de vous parler de Lalo Schifrin. Sa bio est tellement riche que je ne vais même pas vous en faire un petit résumé. Non. Non, j'ai plutôt choisi de faire le lien avec ce que l'auditeur lambda, pour peu qu'il ait jamais eu une télévision entre les mains, a déjà entendu. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de trois thèmes musicaux à propos du film de Don Siegel, donc c'est le moment ou jamais de les évoquer. Or donc, Boris Claudio Schifrin, dit Lalo, né à Buenos Aires en 1932, très très grand monsieur, total respect, immense compositeur, immense arrangeur, a travaillé avec Dizzy Gillespie, au-delà des styles, un immense musicien. Et pour moi, l'homme qui a pondu ceci. C'est-à-dire un formidable exercice de style au même titre que celui de Raymond Queneau ou celui de Maurice Ravel avec son boléro, mais en version plus courte, et jazz qui plus est. On est en 1967, un contexte de grande effervescence autour de la musique de jazz. Dave Brubeck a commencé à livrer les résultats de ses travaux sur la composition jazz avec des métriques asymétriques depuis la fin des années 50, avec son blue rondo à la turque en 9 temps, son unsquare dance en 7 temps, et le fameux take 5, qui n'est pas signé par Brubeck lui-même, mais par son âme damnée au saxophone alto, Paul Desmond, take 5 qui est un 5 temps. Cinq temps, comme le thème de Mission Impossible. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Comme le thème de Mission Impossible. Une décennie plus tard, on a donc eu le temps de digérer l'information et surtout de la faire sienne. Ce générique dure une minute, et en une minute, eh bien, il a mis le feu, au sens propre comme au figuré, puisque ce générique ouvre avec quelqu'un qui allume une allumette. Je vous prie de bien vouloir remarquer la sobriété de la percussion. Une batterie, une paire de bongos. La batterie mixée en arrière, les bongos mixés en avant. Fabuleux. Remerciements infinis à l'ingénieur du son. Alors, la mauvaise blague que je n'ai pas pu résister à vous faire tout à l'heure, c'est évidemment le coup de cette musique de pub, qui n'en est pas une. C'est en fait la musique d'un long métrage de 1967, intitulé The Fox, par un certain Mark Rydell, d'après le roman éponyme de D.H. Lawrence. Les publicitaires en France se sont emparés d'une mélodie qui passait par là, l'ont attrapée, l'ont ressaucissonnée façon pub, pour le résultat que je ne vous infligerai pas une seconde fois. C'est tout simplement parce que je manque de temps, mais je craque complètement pour cette valse jazz à trois temps. Celle-là est tellement rythmée. C'est la musique de Astérix, de Joe Mannix.
merci à toi, Toups, pour cette chronique qui nous donne envie et qui nous fait sentir tout petit mais admiratif. C'est quand même beau la musique quand c'est dit comme ça. Je vous invite à aller voir sur le site de Brissac Loire-Aubance l'actualité concernant Polarisez-vous, l'année du polar. Les dernières décisions gouvernementales ont un peu tout chamboulé. Ce qui n'est pas chamboulé, c'est notre jeu « La main dans le Brissac ». Le tournage des vidéos n'est pas encore terminé, mais on s'amuse bien et l'enquête progresse. Rendez-vous sur notre page Facebook. De nombreux livres à gagner. Cette quinzaine, nous recevions Mathieu Blard pour son premier roman « Jeunesse de France » chez Manet Huili. Luc nous a causé du « Policier qui rit » de Joal et Wallo chez Rivage. On a longuement débattu autour de « Tuer Charles Évaric » de Don Siegel chez Wildside avec l'impeccable Walter Matthau. Enfin, Toups nous a émerveillés en nous causant de la Lalochiffrine. Et là, c'est déjà terminé. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses. Le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours et on vous laisse avec nos amis imaginaires. D'ici là, portez-vous bien. Salut Lina, salut Luc, salut Toups et encore merci.
Au revoir Julien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de vrai, j'espère.
C'est déjà fini. Bon, alors au revoir les amis.
Au revoir.
Stop.